Donc bonjour à tous, merci de vous être levés ce matin par un jour de beau temps. Je pense que d'autres viendront nous rejoindre au fur et à mesure de la session. Je me présente, je suis Loïc Blondiot, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 et j'ai la charge d'animer cette table ronde autour des expériences de participation, des expériences démocratiques en France. Nous avons invité trois intervenants au cours de cette session qui ont chacun un regard spécifique sur la question de la démocratie et sur la question de la participation. Le premier qui prendra la parole est Pierre Mahé, à mes côtés, à qui j'ai demandé de poser une question essentielle en matière de participation, qui est celle des publics les plus éloignés de l'univers institutionnel, de la sphère publique. La question de savoir comment les intéresser, comment les impliquer dans des expériences de participation est quelque chose d'absolument essentiel. Pierre, qui est à la fois associatif, militant et praticien, consultant de la participation, a développé non seulement un certain nombre d'outils qui me semblent intéressants d'observer, parce qu'il n'est pas de question plus compliquée que celle-là, me semble-t-il, ni de plus centrale que celle-là, pour développer ce qu'il appelle la capacitation citoyenne. Il reviendra peut-être sur cette notion, qui est une tradition française d'un concept anglo-saxon qui n'a jusqu'à présent jamais été traduit, et c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi, qui est le concept d'empowerment. Comment donner du pouvoir, comment redonner de la considération et de la confiance dans un certain nombre d'acteurs pour qu'ils finalement prennent en charge leur citoyenneté. Donc ce sera la première intervention. La deuxième intervention sera une intervention d'élu. Et il était très important, me semble-t-il, que dans un contexte comme celui-ci, un élu vienne parler de la participation et de la manière dont il l'a fait vivre là où il intervient. Et donc Daniel Breuiller, qui est à la fois maire d'Arcueil, où il y a une expérience assez longue de la participation, et vice-président du Conseil général du Conseil général de Val-de-Marne, a lui mis en place un laboratoire pour le Val-de-Marne, mais peut-être il nous le dira aussi à Arcueil, qui peut peut-être permettre de donner un certain nombre de clés susceptibles de résoudre la seconde question qui me semble centrale en matière de démocratie participative, qui est celle de la prise de conscience par les élus et par les experts de l'intérêt de la participation. Le second verrou à faire sauter pour que cela change, c'est celui des représentations que les élus et les fonctionnaires, en l'occurrence, mais aussi les experts, les techniciens, tous ceux qui sont censés détenir le savoir, leur représentation qu'ils se font de la participation. Et l'un des éléments qui me paraissent centraux, c'est comment leur faire prendre conscience que cela peut améliorer la décision. Et donc, là, en l'occurrence, on aura un champ, un laboratoire, celui du Val-de-Marne, qui me semble intéressant à présenter aujourd'hui. Le troisième regard sera le regard d'une chercheuse, Laurence Monnoyer-Smith, qui est professeure à l'université de Compiègne et qui travaille depuis déjà assez longtemps et qui est l'une des spécialistes, parmi d'autres, de la question de l'utilisation des technologies numériques, des technologies électroniques, de la démocratie électronique en matière de participation. Des discours extrêmement ambitieux nous disent qu'on pourra finalement changer les choses grâce à ces nouvelles technologies, ou qui sont plus tout à fait nouvelles, technologies d'information et de la communication. Qu'en est-il? Et je lui ai demandé de faire la synthèse de ses expériences. Alors, deux dernières remarques liminaires avant de donner la parole pour un quart d'heure chacun aux trois intervenants, de façon à ce que dans la salle nous puissions avoir véritablement un échange. Première remarque, ce sont trois expériences parmi de très nombreuses autres. Donc ce choix est un choix qui n'est absolument pas significatif de quelque chose. On n'avait pas d'autre possibilité que de faire venir trois intervenants. Et donc du coup, là, on aura des éclairages. On aura vraiment des séquences qui nous font entrer dans des laboratoires, mais on n'ira peut-être pas beaucoup plus loin, et la discussion pourra peut-être permettre d'inventorier de manière un peu plus précise l'espace de ce qu'il est possible de faire à travers cela. Et puis la deuxième remarque, c'est que je crois que l'enjeu là, ici, ça n'est pas de revenir sur les principes, ça n'est pas de revenir sur la querelle dogmatique autour de la participation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Hier, Patrick Vivray avait mis en place, certains d'entre vous y étaient peut-être, un laboratoire démocratique de discussion, d'échange. Et comme c'était bien à tomber, le thème qui a été choisi par les gens qui participaient à cette expérience, c'était le thème de la démocratie participative, qui avait été choisi par vote. Bon, ils ont choisi ce thème. Ça tombe très bien. Et on s'est aperçu que en essayant de classer ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient indifférents et ceux qui ne savaient pas où ils en étaient, on s'est aperçu que 99,9% des gens qui étaient là, tout en se disant pour ou contre, avaient à peu près le même raisonnement sur la participation. Et ce raisonnement, c'est le suivant. Nous adhérons tous au programme de l'accroissement de la participation des citoyens, de la capacité des citoyens à discuter des affaires publiques, à participer au processus de décision. Nous croyons tous en ce programme, mais nous sommes tous frustrés, déçus par les réalisations qui prétendent réaliser ce programme et qui aujourd'hui, dans nos démocraties, ici et maintenant, ne sont très souvent que de pâles caricatures de ce que l'on attend par démocratie participative. Et les trois personnes que j'ai invitées aujourd'hui me semblent avoir un tout petit peu commencé à avancer sur comment on fait, sur comment on réalise concrètement la participation dans des collectivités locales et en essayant de prendre en compte ceux qui, finalement, se situent à des années-lumière des espaces institutionnels de représentation. Donc je donne la parole tout d'abord à Pierre Mahé du cabinet Arpenteur, qui en plus est grenoblois, donc certains d'entre vous le connaissent très certainement, et qui vient nous parler du réseau Capacitation Citoyenne qu'il a mis en place il y a maintenant quelques années. Pierre, à toi.
Et si tu veux bien, je vais quand même dire quelques mots du pourquoi je me suis intéressé ou on s'est intéressé particulièrement. Vous ne m'entendez pas bien? Plus près du micro, carrément.
Déjà quelqu'un qui te connaît, c'est une confirmation.
À cette difficulté qu'on rencontre assez systématiquement dans les dispositifs de participation, qui est de faire venir les gens qui sont les plus éloignés, les plus fragiles, les étrangers, les jeunes, etc. Toute cette catégorie de public dont on voudrait bien avoir un lien dans ces endroits-là, parce que ailleurs ils n'ont pas beaucoup de place et qu'on n'arrive pas toujours à rejoindre. La raison pour laquelle on s'est intéressé à ça, elle me vient peut-être du fait que je suis très ethnocentré. Hein. Moi, mon territoire, c'est la banlieue, beaucoup. Et d'autre part, ma formation, c'est architecte urbaniste. Et du coup, ça m'a donné des entrées de réflexion qui viennent bizarrement rejoindre celle de Claude Lefort. J'étais impressionné hier soir par son entrée en matière sur le parallèle qu'il faisait entre démocratie et ville, parce que c'est aussi un parallèle que j'essaye de faire depuis longtemps, en m'appuyant d'ailleurs, je n'avais pas lu Claude Lefort, mais plus sur Paul Blancard, qui dit toujours le dessin de la ville est toujours le dessin de la société qu'il a engendré. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et quand je regarde la ville qui est en train de se produire actuellement, que vous voyez se produire aussi, c'est une ville dans laquelle il y a deux grandes figures. Il y en a une qui est celle de la mobilité, celle des déplacements, celle de la rapidité, qui produit des grands espaces vides comme Euralille ou comme Europol un petit peu à Grenoble, qui sont des espaces qui font croire qu'on construit de l'espace public, alors que non, on ne construit pas vraiment de l'espace public, on construit des espaces où il faut circuler rapidement vers son but qui est probablement de consommer, ou, etc. Et puis l'autre grande figure, qui est une figure qui est celle de la résidentialisation, hein, ce mot barbare là, qui dit qu'on va faire de l'urbanisme, en particulier dans les quartiers de banlieue, avec de la clôture, avec de la fermeture, avec du retour sur des échelles plus petites et de l'intimité autour de la cellule familiale, en quelque sorte. Hein. Ces deux figures, elles renient, à mon avis, un essentiel de la raison d'être des villes, qui est celle de construire un endroit d'altérité, un endroit où on peut rencontrer l'autre, un endroit où on peut se retrouver. Alors, Claude Lefort, lui, il a appuyé hier soir sur l'idée de liberté. Moi, j'appuie sur le fait de... la ville est faite pour supporter l'étrange, supporter l'étranger, supporter qu'on puisse être au même niveau qu'une tribu différente sans s'affronter. Et ça, c'est un essentiel de la ville, en tout cas de la ville que je connais, qui me semble pas être repris par les grandes figures de l'urbanisation actuelle. Et en parallèle, ce qu'on constate, et Loïc le dirait mieux que moi, c'est que la démocratie fait le même chemin. La démocratie, quelque part, elle est dans la même histoire de d'avoir arrêté l'ascenseur politique en particulier. Hein, c'est-à-dire que comment est-ce que les plus petits peuvent accéder au pouvoir? Actuellement, ça devient de plus en plus difficile. On est élu de père en fils, beaucoup plus qu'en suivant le cheminement de l'éducation populaire ou des syndicats ou des partis qui permettaient à Pierre Bérégovoy d'arriver là où il est arrivé. Hein, c'est-à-dire que là aussi, on a quelque chose qui est en train de se construire, qui est des espaces profondément différents. Des fractures profondes, aussi bien dans la démocratie que dans la ville. Voilà, ça c'est l'inquiétude principale qui nous fait agir. Comment on fait pour retrouver des espaces d'altérité, des espaces publics, des endroits où on peut rencontrer l'autre et où on n'est pas entre soi? Alors c'est assez paradoxal parce que finalement, ces espaces de démocratie participative, quand on les regarde bien, quand on les ausculte, la plupart du temps, ce sont des espaces qui sont justement de l'entre-soi, hein, particulièrement de l'entre-soi. J'étais content quand même, aujourd'hui, j'avais peur qu'on soit très, très, très entre-soi. En fait, j'ai constaté qu'hier, il y avait des individualités quand même. Il y avait des gens qui venaient d'ailleurs et qui étaient présents aussi, donc ça m'a un peu rassuré. Mais cet entre-soi-là, il me paraît très dangereux pour renouveler la démocratie. On est assez mal barré avec ça. Ce que je voulais donc du coup vous rapporter, c'est quelques espaces comme ça qu'on traverse depuis des années, depuis 15 ou 20 ans, et quelques conclusions là-dessus. Ce que je constate, c'est que tous les dispositifs de participation qui sont portés par l'institution, par les collectivités locales, etc., se heurtent assez systématiquement à cette difficulté de toucher les publics les plus éloignés, mais à bien d'autres difficultés, de manque de culture, on pourrait dire, hein, en général. Et tous ceux qui avancent vraiment, c'est ceux qui durent. C'est ceux qui fonctionnent pendant suffisamment de temps pour justement s'autocritiquer, se regarder eux-mêmes et évoluer. Pour donner quelques exemples, dans la région. Moi, on a suivi pas mal ce qui s'est passé à Échirolles ou à Fontaine. À Échirolles, il y a un vrai travail qui dure depuis plus de 10 ans, de 15 ans, et qui a balbutié beaucoup, mais qui s'est structuré maintenant de telle manière que je pense qu'il y a vraiment une vraie richesse à regarder qui se passe là-bas, en particulier sur la capacité à travailler, par exemple, sur des échelles de territoire très, très, très différentes. Hein, on a les grands messes comme les assises de la ville, on a les récurrents conseils de quartier, on a les ateliers publics d'urbanisme, on a Cité Plurielle qui est une structure qui s'occupe de l'immigration, de l'intégration, de la lutte contre les discriminations, on a toute les centres sociaux maintenant qui se structurent autour des questions de participation, et par là je constate à force de voir avancer cette ville dans cette dans ce, ce dispositif, dans ces dispositifs, je constate que il y a un public qui a largement évolué et un public qui est en train de porter la ville pour en faire sa ville en fait, hein, vraiment. Un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami, qui était à Grande-Synthe, qui disait la participation, finalement, je croyais que c'était mettre sa part. Je l'ai mise ma part, mais on récupère aussi quelque chose, on gagne quelque chose, et on gagne le fait de pouvoir s'approprier sa ville, exister dans sa ville, et être dans le lieu qu'on habite. Une autre expérience, celle de Fontaine, qui est beaucoup plus alors sur comment est-ce qu'on arrive à travailler sur les sujets qui concernent les gens, vraiment. Et là, en 10 ans de travail autour du comité d'habitants, il y a eu un vrai boulot qui a permis qu'on arrive à continuer à s'intéresser à la bouche d'égout, à la crotte de chien et au trottoir cassé, qui horrifie systématiquement les professionnels et les élus. Mais sans lâcher ça, on parle aussi de sujets de société, comme par exemple la vie carcérale, ou comme le port du voile, ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu ce temps pour que ces dispositifs s'adaptent, s'ajustent, et se prolongent jusqu'à une maturité qui... Alors là-dedans, il y a des ruptures qui sont, par exemple, les ruptures électorales, hein, où on a un magnifique processus qui se développe et puis qui s'effondre à l'alternance électorale. Et ça, c'est un peu difficile parce qu'on est, dans ces moments-là, sur des déceptions qui sont telles qu'on retourne dans la suspicion, qu'on casse toute la confiance constituée. Il y a d'autres dispositifs qui travaillent sur des échelles de territoire qui sont vraiment intéressantes aussi. On suit, par exemple, depuis plus de 10 ans aussi, le travail des espaces verts en Seine-Saint-Denis. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis a lancé un grand processus d'implication des usagers, des habitants du département sur à la fois l'accompagnement de projets qui sont la réfection d'une aire de jeu dans un parc, et on coproduit ce projet avec les gens jusqu'au bout. Et puis à la fois, on travaille sur le schéma directeur des espaces verts à l'échelle du département, et les habitants deviennent des experts avec une lecture de leur territoire qui vient se juxtaposer avec ce que font les scientifiques de la biodiversité, par exemple, et vient en équivalence dans la construction comme ça d'un schéma à 10 ans sur l'aménagement des espaces verts. Pour vous dire, il commence à y avoir des choses qui sont vraiment intéressantes et qui ne sont plus seulement de la proximité, qui ne sont plus seulement avec une certaine catégorie de personnes, etc. Aubagne, en ce moment, par exemple, est en train de mettre en place un dispositif qui, lui aussi, s'ancre sur une histoire, un processus lent, etc., et qui travaille sur 17 projets de la ville, 17 projets du mandat, en mettant 17 ateliers en place où on est à la fois sur le futur tram et puis l'installation d'une maison d'accueil des femmes isolées et battues. Enfin, on est dans comme ça des processus qui arrivent à diversifier complètement les publics et élargir complètement les dispositifs et les améliorer. Voilà. Alors, cela dit, il reste qu'on est face à une proposition institutionnelle dans ces cas-là, et que cette proposition institutionnelle, elle reste très douteuse en permanence. Et il faut énormément se bagarrer pour arriver à faire croire ou à faire adhérer à ces dispositifs. Un élu qui met ça en place, forcément, on va l'accuser de vouloir se faire réélire, mais ce serait peut-être un peu légitime, mais aussi de manipuler derrière, d'être dans une situation de... Alors, ce poids qui pèse sur les dispositifs de participation est assez embêtant. Et puis, malgré tout, on reste souvent, avec la proposition institutionnelle, à considérer que les habitants sont concernés par leur lieu d'habitation, point final. Et pendant ce temps, sur ces quartiers qu'on traverse, il y a énormément d'énergie de la société civile qui se porte d'eux-mêmes, qui sont en train de faire la ville aussi, qui sont en train de finir la ville, comme dirait Jojo Monassi, Molossi à Montreuil. Il dit, nous, au fond de la Boissière, le quartier de la Boissière, c'est les associations qui sont en train de finir la ville. La collectivité locale a abandonné ce coin, et heureusement qu'on est là pour continuer, pour faire qu'il y ait une crèche qui s'installe, pour qu'il y ait une ludothèque qui s'installe, etc. C'est nous qui finissons la ville. Et partout, comme ça, il y a des énergies très fortes qui sont en train de se structurer et qui sont dans l'invisibilité, quasiment. On s'est attaché à ça, et on s'est demandé s'il n'y avait pas moyen qu'on mette en lien ces gens qui sont sur ces territoires et qui sont en train de développer des choses merveilleuses, mais invisibles. Et on a travaillé comme ça sur la construction d'un réseau qui s'appelle le réseau Capacitation Citoyenne, qui permet à des collectifs de l'agglomération grenobloise, de l'Île-de-France, de la région Nord-Pas-de-Calais, beaucoup, et puis la région Wallonne, et puis un petit peu du Brésil et du Sénégal, quand on a les moyens, et bien de se structurer, de se montrer, de se rendre visible en écrivant des livrets en particulier, et puis ensuite de se rencontrer et d'échanger. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Le choix de ces collectifs est fait principalement sur cette idée d'altérité. Comment est-ce qu'on arrive à faire que des gens différents se rencontrent ? Et donc on a à la fois des gens du comité d'habitants de Fontaine, par exemple, qui sont en discussion permanente avec l'institution, mais aussi de Solidarité Nouvelle à Charleroi, qui sont des associations qui essayent de redonner l'initiative aux SDF, aux habitants de la rue, comme ils disent, pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions à leur précarité. Mais aussi des gens qui font du théâtre avec des jeunes, etc. Enfin, toute une série de collectifs comme ça. On est maintenant avec une centaine de collectifs différents qui travaillent ensemble régulièrement. Et on leur permet de se rencontrer, une fois à Roubaix, une fois à Montreuil, une fois à Charleroi, une fois à Grenoble. Et dans ces moments-là, il se passe quelque chose que je n'arrive pas à rencontrer ailleurs. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un SDF en face de, je sais pas, la ministre wallonne des affaires affaires sociales, eh bien, il se passe une espèce d'intelligence collective extrêmement dynamique, extrêmement forte, où ces gens qui sont dans la préoccupation quotidienne de changer leur environnement se mettent à parler politique. Et se mettent à parler politique comme, je pense, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle politique et où on fait avancer la machine de la réflexion. C'est pour ça aussi que j'étais content que Loïc me propose de venir parler de ça ici, parce qu'il me semble qu'il y a un gros risque, encore une fois, à ce que la République des idées ne se connecte pas avec ces autres lieux de réflexion et de conceptualisation, hein, qui effectivement sont des lieux qui sont là pour faire, qui sont là pour, par exemple, dire dans la région de Calais, ce serait pas mal que les bouchons à incendie, on y mette aussi une petite pompe dessus pour que les migrants puissent au moins avoir de l'eau à boire, hein, ou que à Charleroi on réintroduise l'idée de douche publique, hein, parce que c'est quand même le minimum qu'on pourrait offrir à ces gens qui sont dans l'exclusion. Alors voilà, on est sur des projets comme ça, mais aussi on est sur des projets fondamentaux qui sont comment est-ce qu'on travaille sur la mobilisation, sur etc. Et donc en ce moment, on en est à en gros essayer de faire que ce réseau se rende un peu plus visible, et donc une caravane est lancée, hein, elle va débarquer y compris à Grenoble, puisque en même temps que les 12e rencontres de la démocratie de la DELS, la caravane capacitation va venir s'installer ici pour justement essayer de rendre visibles ces petites forces qui sont capables de beaucoup, mais il faut les écouter.
Merci Pierre d'avoir tenu ton temps, d'avoir évoqué, parce que nous ne pouvons en être qu'au stade de l'évocation des expériences et des dispositifs que tu as essayé de mettre en œuvre. Simplement, je liste un certain nombre de points que tu as abordés qui pourront peut-être revenir dans la discussion. La question de la confiance, comment lever le soupçon massif qui pèse sur les institutions et sur les élus. Comment passer de la proximité tout en y restant et à des réflexions sur des enjeux plus généraux. Comment faire en sorte que ça vaille la peine pour ces publics de se déplacer et de s'impliquer? C'est une question essentielle. Comment les intéresser, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Comment gérer la diversité, qui est la trame fondamentale? Tu aurais pu utiliser un terme que tu n'as pas du tout utilisé, on pourra peut-être y revenir, c'est le terme de conflit. Comment finalement inscrire les conflits, comment les traduire, comment les institutionnaliser à travers ça. Dernier point, et ça c'est une question plus générale que moi j'aurais envie de lancer après t'avoir écouté, c'est comment articuler ces groupes. Alors les rendre visibles, c'est le premier stade, rendre visible leur action, leur donner une place dans l'espace public et les donner à voir aux institutions. C'est-à-dire obliger les institutions à reconnaître l'existence à la fois de ces problèmes et de ces dynamiques venues d'en bas. Mais comment aller au-delà? C'est-à-dire comment articuler, moi, ce que j'appelle les mini-publics que l'on construit à travers cela, qui sont vraiment des publics éclairés, sur le public plus général, puisque la démocratie, c'est quand même la gestion de l'ensemble du peuple dans nos sociétés. Voilà, c'était déjà très riche. Donc je propose qu'on donne la parole maintenant à Daniel Breuiller pour voir l'autre versant, qui est le versant institutionnel, me semble-t-il, celui de la fabrique des politiques publiques. Comment les politiques publiques, finalement, font une place aujourd'hui à la participation?
Merci. Donc, je fais partie des élus qui font des propositions institutionnelles qui peuvent être jugées douteuses, qui ont l'intérêt de se développer sur la durée. Et donc, je voulais dire, d'abord, d'où je parle. Je parle de mon expérience de maire depuis une douzaine d'années d'une ville de banlieue, Arcueil, et de ma deuxième expérience plus récente de vice-président du Conseil général du Val-de-Marne en charge de la démocratie participative. Je voulais d'abord poser pour moi une question qui est une question essentielle à laquelle je pense les élus répondent, je m'excuse la dichotomie un peu exagérée, mais de deux façons assez marquées. La question, c'est à qui appartient la politique? Et je crois qu'un certain nombre de collègues répondent la politique appartient aux partis, aux institutions, aux élus chargés de la mettre en œuvre. Et donc, il nous appartient de convaincre, d'expliquer, d'être pédagogue. D'écouter aussi, bien évidemment, mais enfin de convaincre et de porter. Et puis, de plus en plus, un nombre important d'élus, je ne parle pas de la société civile ou des associatifs, Pierre en a parlé, affirme le fait que la politique appartient à tout le monde, et donc d'abord aux citoyens, et que la question est donc comment nous mettons en débat les politiques publiques, comment nous cherchons à les penser dans ce rapport entre les institutions et les énergies, les intelligences citoyennes. Quel type de dialogue permanent on crée qui ne s'arrête pas au dialogue électoral une fois tous les 6 ans. Au passage, quand il y a des ruptures électorales, il faut se réapprivoiser, mais enfin, c'est quand même mieux les pays où il y a quand même des élections que les pays où il n'y en a pas, ou en général, c'est... Voilà. Alors, moi, j'ai expérimenté beaucoup de dispositifs dans ma commune, un référendum d'initiative locale, je vais en dire 2 mots malgré tout, le droit d'inscription automatique à l'ordre du jour du conseil municipal d'une question portée par pétition par 200 citoyens. Dispositif formidable, parce que c'est de la politique remontante et corrective. Moi, j'appelle ça la démocratie corrective. Ça ne veut pas dire qu'on donne raison à la pétition, mais ça veut dire qu'on débat du problème qui est posé entre l'institution et les citoyens qui l'apportent. Bien sûr, des assemblées de quartier avec des budgets dédiés, des rénovations urbaines avec un choix affirmé que la décision appartiendra aux locataires, alors que paradoxalement, quand vous démolissez un bâtiment dans une cité, vous n'êtes même pas tenu de consulter les gens qui y vivent, alors que la loi vous fait obligation de les consulter pour faire une réhabilitation de logement. Donc, j'ai expérimenté beaucoup de dispositifs, le Conseil général du Val-de-Marne également. Et première idée que je voulais soumettre, c'est l'essentiel n'est pas les dispositifs, c'est le sens et la volonté qui fait qu'on mène ces dispositifs. Et souvent, on peut, dans la démocratie participative, finir par prendre le dispositif pour la finalité. Or, le dispositif, ce n'est qu'un outil de la finalité qui est capable d'évoluer. Donc, pour moi, première remarque que je voulais faire, la politique appartient à tout le monde. C'est déjà pas si simple. Dans une ville comme Arcueil, rien que le droit de vote n'appartient déjà pas à peu près à 20-25% de la population de la commune, entre les étrangers non communautaires et les électeurs français non inscrits. Je voulais donner une petite expérience sur ce référendum d'initiative locale qu'on a fait sur un grand projet urbain en 1999. Ce référendum, nous avons décidé que tous les citoyens voteraient. Pour nous, citoyens, c'était tous les habitants de la commune, quelle que soit leur nationalité. On a choisi cette formulation qui nous a permis d'ailleurs que le préfet ne nous interdise pas d'organiser un tel référendum. Et donc j'ai eu le bonheur, vraiment le bonheur comme élu, de voir une consultation auquel participaient des citoyens étrangers non communautaires. Je voulais vous donner deux éléments qui amènent à réfléchir à l'importance de cette question que la gauche n'a pas été capable d'assumer. J'ai vu un monsieur RMiste que je connais de longue date qui s'est acheté une chemise neuve pour venir voter ce jour-là dans le bureau. Et j'ai vu une jeune fille qui m'expliquait, une jeune fille maghrébine, qui m'expliquait qu'elle avait répété avec sa maman toute la soirée comment signer de son nom pour ne pas apposer une croix sur le registre des signatures. Ce jour-là, je dois vous dire que j'ai eu un des plus grands bonheurs de ma vie, c'était simplement le sentiment d'avoir rendu de la dignité à des gens qui sont éloignés de l'accès à la décision publique alors qu'ils contribuent à la vie de la cité par leur travail, par leurs engagements, par leur vie quotidienne. Donc, le niveau local est un niveau où l'invention et l'expérimentation est possible sans doute plus aisément qu'au niveau national. Pourquoi ça? Moi, je crois, comme maire et comme élu local, je suis très préoccupé de la façon dont nous vivons. Aujourd'hui, dans une ville comme la mienne, les gens vivent plutôt côte à côte qu'ensemble. Et la question majeure, c'est comment nous faisons société. C'est-à-dire comment nous pensons ensemble notre futur commun et comment nous le construisons. Donc si nous ne participons pas à la controverse entre les uns et les autres, si nous ne mettons pas en débat les sujets qui sont les sujets principaux, nous pouvons prendre de très bonnes décisions. Les élus sont en général attentifs, ils portent des convictions, ils les mènent avec honnêteté et intelligence dans l'immense majorité des cas. Mais la même décision élaborée avec les citoyens, confrontée à l'avis des citoyens, a une valeur beaucoup plus grande. Je reviens à la question de l'ANRU, par exemple, et de la décision que nous avons prise et affirmé dès le début que le projet ne se ferait que si un vote majoritaire des habitants du quartier nous en donnait le feu vert. C'était contesté dans beaucoup de cercles en disant « mais c'est un abandon de la responsabilité des élus ». Enfin, non, je vous garantis que ce n'est pas moins de responsabilité ni moins d'engagement, c'est même plutôt, de mon point de vue, plus d'engagement. Mais dès lors que vous prenez cette décision, d'abord vous êtes condamné à réaliser un projet qui soit réellement bénéfique aux citoyens. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes condamné par le vote à ne pas réaliser ce projet. Et donc ça vous donne beaucoup d'intelligence et ça rétablit la confiance dont on parlait, puisqu'on se dit « ah, mais vraiment, je déciderai ou bien on m'imposera ». Dernier élément, dans un de ces projets en rue, il y avait un collectif anti-démolition, comme il en existe beaucoup dans les projets de rénovation urbaine. Nous avons fait un vote sur cette démolition. Ben, j'aurais pu, moi, imposer cette démolition, qui me paraissait indispensable pour des raisons multiples. Ça aurait toujours été la décision du maire et de son équipe. Alors que lorsqu'elle est issue d'un référendum déconcerné, cette décision est une décision populaire qui a une force beaucoup plus grande que la légitimité de l'élection ne nous donne. Alors, je voulais évoquer ces deux éléments rapidement parce que pour moi, ils portent une question de sens. Non pas pour dire que le référendum est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Hein. C'est aussi très réducteur, on répond par oui ou par non. Mais pour dire que la question majeure est quand même la question de finalement qui a voix au chapitre sur une décision ou sur une politique publique. Et je crois qu'il faut veiller à ce que chacun y ait voix. J'en viens maintenant à la question que m'a posée Loïc, mais comme il ne me l'avait pas annoncé trop à l'avance, je l'ai moins préparé. J'ai amené ici, j'en laisserai 4 ou 5, s'il y a des gens que ça intéresse, un petit document qui s'appelle le guide méthodologique pour la concertation des Val-de-Marnais avec la charte de la participation, le Conseil général s'engage. Le Conseil général du Val-de-Marne a expérimenté beaucoup de dispositifs de participation. Et puis on a décidé, il y a maintenant 2 ans, d'élaborer une charte de la concertation. Je dois à la vérité de dire que comme élu en charge de cette question, j'étais très réticent et même très sceptique à l'idée d'élaborer une telle charte, parce que pour moi les chartes c'est des endroits où on formalise, on enferme les choses et où on sclérose plutôt la capacité d'innovation. Je suis revenu de cet a priori négatif au vu du travail. D'abord, c'est une charte qui a été élaborée de façon participative et avec beaucoup de salariés. On a mis l'accent sur les salariés à partir d'une idée. La démocratie participative transforme beaucoup le travail des fonctionnaires dans la façon de concevoir les projets, de les porter. Donc, il faut entendre la façon dont eux se sentent ou ne se sentent pas outillés, équipés, formés pour mener de telles procédures. Donc, on a mis 150 fonctionnaires au travail pendant une période de plusieurs mois, pas en continu, hein, je vous rassure, et puis une cinquantaine d'habitants Val-de-Marnais engagés dans des processus participatifs qui nous ont accompagnés. Quel est le résultat de cette charte? Bon, la charte ne casse pas 3 pattes à un canard, si vous me permettez cette expression. Elle affirme quand même une posture et elle reconnaît un droit des citoyens d'être au minimum informés et si possible associés à l'élaboration des décisions et des politiques publiques principales. On ne peut pas concerter en permanence sur tous les sujets. Donc ce premier élément affirmé est un élément important. Deuxièmement, elle dit pour faire ça, il faut se doter d'outils et il faut accepter d'y mettre des moyens. On est capable de dépenser des millions pour faire une route et on résiste à mettre quelques dizaines de milliers d'euros pour faciliter la participation des riverains, des usagers, à l'élaboration de ce projet. Il y a là un immense paradoxe. Et une fois qu'on a fait la route sans la participation des usagers, le lendemain, le maire ou le vice-président du Conseil général reçoit des lettres pétitions parce qu'on a oublié qu'il fallait préserver l'accès au commerce et que ça ne se fait pas exactement comme ils le veulent, parce que la bataille sur la place de la voiture ou la place des piétons dans la ville a été pensée par des techniciens qui ont fait des choix, mais que ces choix n'ont pas été débattus et donc ils sont contestés le lendemain de la réalisation. Et assez souvent, on reprend le projet, on le réaménage et on dépense beaucoup plus que peut-être nous aurions eu à dépenser. Lorsqu'on a élaboré cette charte, beaucoup des techniciens nous ont dit « Mais attendez, vous nous demandez de faire de la participation, mais nous ne sommes pas formés à ça, ni outillés. D'ailleurs, jusqu'où est-ce qu'on a le droit d'aller dans le dialogue avec les citoyens, nous techniciens ? Qu'est-ce que les élus, si jamais j'ose aller un peu loin sur la présentation des objectifs, des contraintes, est-ce que l'élu de référence ne va pas me prendre de revers et me dire « Mais comment, c'est un scandale, au nom de quoi vous mettez tout ça sur la place publique ? Ce sont des questions, ça est très bien, ça doit se gérer entre nous. » Moi, j'ai constaté assez vite dans la discussion avec mes collègues, pour aboutir, il y a quand même eu aussi un groupe d'élus qui a travaillé sur cette charte, j'ai constaté assez vite que les élus eux-mêmes se sentaient démunis. Faire de la participation, ça se résumait 9 fois sur 10 à faire une réunion. Donc faire une réunion le soir à 18h ou à 20h30, avec les conséquences, c'est-à-dire participent les spécialistes de la participation, en général les gens bien insérés, et qui produisent donc des politiques pour les gens bien insérés. Et ne participent pas les mères de famille, parce qu'à cette heure-là, elles préparent le dîner ou elles s'occupent des enfants, bien qu'on soit dans une société parfaitement égalitaire, même quelques différences dans les emplois du temps entre les hommes et les femmes, ne participent pas les jeunes, pour qui aller à une réunion le soir, et ne participent pas les pauvres, je m'excuse d'être un peu cru dans les termes, mais c'est la réalité, qui sont pourtant les plus mis à mal par la façon dont nous construisons la cité. Donc il nous a paru important d'accompagner, de ne pas laisser non plus, de ne pas dire bon, « la politique c'est simple, vous n'avez qu'à vous réunir, on discute et ensuite on prend les décisions », qui est le on d'ailleurs est rarement précisé au début de l'opération, mais il faut aussi s'outiller. Donc nous avons mis en place une mission, démocratie participative, pas un service, une mission de 5 personnes qui travaillent aux côtés de toutes les directions qui veulent engager des processus d'élaboration ou de concertation. Le but de cette mission, c'est d'accumuler de l'intelligence, finalement, dans les divers processus, de l'expertise, et de la mettre au service de la volonté. Les premières questions que nous posons, c'est, par exemple, de clarifier un certain nombre d'éléments. Exemple, dans ce guide, on dit « La concertation de la population n'est pas utile si rien ne semble négociable, si les élus et les techniciens n'ont ni le temps, ni l'envie, ni les moyens de questionner les publics. » Ça va de soi, mais c'est très important de le dire. Parce qu'il vaut mieux dire aux gens « nous ne concertons pas, éventuellement nous vous informons », plutôt que de les informer en leur disant « nous vous concertons ». Si le budget, je me rappelle moi d'un débat sur une route départementale où la personne qui présentait le dossier est venue avec l'avant-projet détaillé en montrant à quels endroits étaient les bancs, etc. et en disant « c'est une réunion de concertation, mais voilà le dossier qui a été remis à l'entreprise soumissionnaire ». Je vais vous dire, comme élu, on se sent un tout petit peu mal à l'aise parce qu'on se dit, mon Dieu, si jamais quelqu'un me dit, mais alors, tout est réglé, ben oui, tout était quasiment réglé. Donc, il faut se poser un certain nombre de questions et il faut s'outiller parce que la participation, ça ne va pas de soi. Dans les questions fondamentales, je suis très sensible à celle de qui participe. Nous avons un article 9 de notre charte que je vais quand même vous lire. Je vais vous en lire deux, si vous permettez. Dès que je l'aurai retrouvé. D'abord, l'article 8, ça c'est amusant. Le Conseil général recherche la participation de tous les publics potentiellement concernés par le projet mis en débat, qu'ils soient acteurs organisés, entre parenthèses, élus locaux, associations, organisations syndicales, collectifs divers ou acteurs individuels, en valorisant leur savoir ou leurs expertises. Quand j'ai soumis ce document au vote de l'Assemblée départementale, il n'y avait pas élus. C'est-à-dire qu'on sollicitait associations, syndicats, collectifs, acteurs individuels. Et l'opposition m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas les élus. Donc, on a rendu gré à l'opposition, on a rajouté les élus, ce qui est d'ailleurs tout à fait nécessaire. Mais ça m'a quand même beaucoup frappé que le seul amendement à une charte de la participation était pour réaffirmer la place des élus, parce que très franchement, ça n'est pas ceux qui ont le plus de mal à peser sur les décisions qu'ils prennent eux-mêmes. L'article 9 est pour moi plus important, il dit « Le Conseil général ne se résout pas à concerter uniquement les publics spontanément volontaires. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou ne l'apprennent pas est un défi démocratique et social. » C'est, je crois, la question majeure et on expérimente grâce à la mission participative, grâce aux gens qui travaillent comme consultants, comme militants associatifs, comme experts, des dispositifs multiples. Par exemple, dans un projet sur l'éducation, on a travaillé avec ATD Carmonde pour avoir la parole des parents dont les enfants au collège sont décrocheurs. Parce qu'on discute toujours de la situation de décrochement des enfants avec les parents dont les enfants réussissent. Et il faut arriver à en discuter avec les parents dont les enfants ne réussissent pas. Et ces parents, ils ne viennent pas au collège. Si vous n'allez pas les voir, ils ne seront pas présents. Si vous recueillez une parole individuelle, vous les fragilisez. Il faut donc leur permettre des paroles collectives. Le collectif, c'est la garantie du démuni. Alors que l'individuel, le droit individuel, c'est la garantie du bien inséré. Donc il y a comme ça une série de questions que nous commençons à nous poser. C'est tout ça, la mission est en place depuis 2006, que nous commençons à nous poser. Donc pour que la participation devienne finalement une chose banale et habituelle des politiques publiques que nous menons dans le département.
Merci Daniel d'avoir aussi maintenu ton temps. Moi je retiens comme question possible pour la discussion celle du à qui appartient une politique et donc la question parallèle de la professionnalisation de la politique. Est-ce que la politique doit être une affaire de professionnels et d'experts? C'est une question centrale mais qu'il faut toujours remettre sur le tapis. Deuxième question, la manière dont tu abordes en tant qu'élu cette question de la participation me confirme dans l'idée que la participation elle sert à aboutir à un véritable processus de représentation. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas penser la participation sans la représentation et réciproquement. C'est-à-dire que là, pour qu'il y ait un vrai processus de représentation dans l'intervalle entre les élections, il faut qu'il y ait cette démarche en permanence de refondation de la légitimité du représentant. Troisième remarque, la question du coût. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que finalement le prix de la démocratie n'est pas trop cher payé ? Et quand tu parlais effectivement du coût de l'infrastructure elle-même, mais aussi du coût de la communication, les budgets de communication des projets sont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus importants que les budgets de la concertation. Est-ce que là, il n'y a pas un déséquilibre très problématique quand on voit que le ministère de la Justice, là, depuis 2007, la ministre de la Justice a dépensé 3 millions d'euros sur sa propre communication. Hein. Est-ce qu'un tout petit peu de cet argent n'aurait pas mieux valu, d'autant plus qu'il s'agit de produire de meilleures décisions, d'un certain point de vue, des décisions non seulement mieux acceptées, mais moins absurdes que celles que l'on aurait prises indépendamment de la participation. Quatrième point, point qui me tient très à cœur, l'essentiel est dans les détails, dans la méthodologie, dans les dispositifs, dans les outils, hein, ce n'est pas les grands discours, faire une réunion et se contenter de cela, ça n'est pas faire vraiment de la participation. Et le dernier point, tu as présenté une charte, mais l'enjeu c'est de faire vivre la charte et les moyens que tu as donnés et le mandat que tu as donné au service de la démocratie participative de Val-de-Marne, pour autant que j'ai pu en juger, démontrent que cette charte n'a pas vocation à être lettre morte, parce qu'il ne suffit pas de dire les choses, il faut quand même qu'après on suive. Et donc du coup, la question de l'institutionnalisation de la participation à l'intérieur des collectivités locales est une question qui n'est absolument pas négligeable. Voilà. Et je vais donner maintenant la parole à Laurence Monnoyer qui va nous parler des possibilités offertes aujourd'hui, ici et maintenant, par les technologies numériques pour transformer un peu finalement ces expériences et peut-être produire de nouveaux rapports aux politiques.
Merci beaucoup Loïc. Bonjour à tous. Alors pour commencer ce petit topo que je vous propose ce matin, je voulais vous inviter à faire un petit voyage dans le temps. Je voulais vous inviter à remonter à peu près 60 ans en arrière, à la louche, entre 50 et 60 ans en arrière, à l'époque où émerge dans les foyers français et un petit peu partout en Europe une nouvelle technologie complètement révolutionnaire. Cette nouvelle technologie complètement révolutionnaire va permettre à chacun d'entre nous, à ces citoyens qui sortent de l'épreuve difficile de la Deuxième Guerre mondiale, de voir pour la première fois, ou si ce n'est pas pour la première fois, en tout cas, de voir de façon active et vivante les élus, de voir pour la première fois leur président de la République, et pour la première fois en particulier de se rassembler entre soi dans son salon pour écouter et pour voir un discours d'un élu important. Cette nouvelle technologie... À l'époque, totalement révolutionnaire, qui va transformer les rapports que les citoyens vont entretenir avec leurs élus. Cette nouvelle technologie qui va complètement réorganiser et complètement transformer la façon dont les relations sociales vont se ritualiser, c'est bien entendu la télévision. Aujourd'hui, plus personne ne se demande si la télévision a transformé notre rapport aux politiques. C'est une évidence, en bien ou en mal, je ne suis pas ici pour en juger, ce n'est pas l'objet de la table ronde. En revanche, ce qui me paraît totalement évident, c'est le parallélisme que l'on peut faire entre la télévision il y a 60 ans et Internet aujourd'hui. Non pas totalement dans la façon, enfin, qu'il y ait une équivalence sur la façon dont ces deux technologies modifient notre rapport aux politiques, mais en revanche, ce qui est complètement évident, c'est que nous sommes aujourd'hui exactement comme il y a 60 ans, à la croisée des chemins. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si Internet va transformer notre rapport aux politiques, mais de savoir comment il va le transformer. Et ce comment, aujourd'hui, il dépend de nous, complètement de nous, et des choix de société que nous allons être amenés à faire. Et ces choix de société sont collectifs. Ils sont poussés, bien entendu, directement par la société civile et par les associations, et ils rencontrent un certain nombre de résistances, bien entendu, d'ordre multiple. Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et pour essayer de tisser des grands traits de ce que l'on peut observer des expérimentations qui sont en cours. Pour moi, si on observe un petit peu ces différentes expérimentations en France et en Europe, hein, les choses ne sont pas fondamentalement différentes. Il y a deux écueils principaux à la mise en œuvre de ces pratiques participatives et de ces outils de démocratie en ligne. Il y a deux dangers. Le premier danger, c'est le danger du réductionnisme. C'est celui qui consiste à faire une espèce d'amalgame entre la production de services en ligne et la production de démocratie en ligne. Je vais être un peu cru, à la limite, hein, on pourrait faire de la démocratie en ligne comme on fait de la réservation de billets SNCF ou pour aller regarder les horaires du cinéma. Évidemment, je ne dis pas là qu'il n'y a pas un progrès fondamental à l'amélioration du service public via la mise en ligne d'un certain nombre d'outils tels que changer votre carte, aller chercher votre passeport, etc. Ce genre de choses qui se sont mis en place assez rapidement. Oui, oui. Oui, si vous me permettez, c'est exactement ça. C'est pour ça que je voulais dire que c'était du réductionnisme, madame. Absolument. Je vous suis, si vous me laissez poursuivre mon argumentation. C'est du réductionnisme, exactement. Donc, il y a, lorsque se sont mis en place ces outils, entre guillemets, hein, ces outils de relation qui font le lien entre le citoyen et les collectivités locales et les élus, etc., la tendance à confondre, justement, ce qui est de l'ordre de la démocratie et ce qui est de l'ordre du service ou de l'information. Nous avons vu dans les années, à la fin des années 90, les villes pionnières dans le domaine mettre en place des modèles assez différents. Si je suis un petit peu caricaturale, un petit peu provocatrice, on va dire, mais enfin je les connais bien tous les deux, à la fois on a eu le modèle façon participative à l'appartenait, financé par l'Europe, et le modèle façon plutôt communication un petit peu instrumentale, là encore je caricature un petit peu, il faudrait y mettre des nuances, à ce qui s'est fait à Issy-les-Moulineaux. Dans ces deux collectivités, il y avait une approche de la démocratie qu'on ne contestera tout de même pas à la ville d'Issy-les-Moulineaux, mais il y avait deux approches de la participation, l'une plutôt orientée service et l'autre qui était plutôt orientée participation, plutôt qui travaillait un petit peu enfin, à partir de la base du terreau des associations. Ce que je veux dire simplement ici, c'est qu'il est plus facile, évidemment, de mettre en place des outils de service en appelant ça de la démocratie, même si, évidemment, comme madame, nous ne sommes pas dupes, que de mettre en place une véritable réflexion, une véritable infrastructure qui permette de développer ces outils participatifs. Mais là, il faut faire attention, les outils ne sont pas neutres. Les outils ne sont pas neutres. Et quand on voit se développer sur les sites web des villes, ça fait 10 ans que le label Ville Internet existe et on a un bon recul maintenant pour voir un petit peu les trajectoires de mise en place de ces dispositifs participatifs qui très souvent partent du service, parce que c'est un petit peu ce qu'il y a de plus simple à mettre en place, et puis parce que ça passe par la réorganisation d'un certain nombre de services en interne, donc c'est par ça qu'on commence, ça part du service vers la participation, ce chemin étant un chemin long, un chemin difficile et un petit peu périlleux, mais qui se met en place progressivement. Donc l'analyse de l'outil en tant que tel est tout à fait révélateur de la façon dont la municipalité, dont la collectivité conçoit cette approche participative. Donc ça, c'est le premier danger auquel nous devons être, vis-à-vis duquel on doit être particulièrement vigilant. Le deuxième danger, c'est celui de la captation. La captation par une série d'acteurs de ce vecteur de communication et d'échange que représente Internet, et cette captation de la part d'un certain nombre d'acteurs, soit pour des raisons, on va dire, de résistance, d'immobilisme, de peur, hein, s'il y a bien une population qui est particulièrement réfractaire aux technologies de l'information, ce sont les élus et les administrations, hein, pour des raisons multiples, je ne veux pas rentrer là-dedans dans une sociologie, hein, un petit peu poussée, mais enfin, c'est tout à fait évident. Donc, une série d'acteurs qui veulent, par leur immobilisme, freinent un petit peu le développement de ces outils. Et puis, par ailleurs, il faut aussi, on le constate tout à fait véritablement sur le terrain, une captation de ces outils par un certain nombre d'associations qui craignent que la mise en place de ces dispositifs participatifs fasse émerger un certain nombre d'acteurs qui ne rentreraient pas, ou en tout cas, qui rentreraient en concurrence dans leurs relations parfois longues, ancrées dans un territoire et localement, avec les élus qui leur permettent de faire valoir leur point de vue par rapport à d'autres. Donc cette difficulté à mettre en place explique que malgré le fait que ça fait un petit peu 15 ans hein, que ces technologies existent, on est une difficulté à mettre en place, à voir apparaître des choses véritablement innovantes. Alors, C'est pas tout à fait. Là, je fais une peinture un petit peu noire. Qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre de villes? Il y a une très forte créativité. Et cette créativité qui existe en Nîmes, on a du mal à la capter, on a du mal à la valoriser à l'intérieur de ces dispositifs participatifs en ligne. Parce que il y a un petit peu tendance, c'est ce que l'on constate un petit peu sur le terrain, il y a un petit peu tendance à faire une espèce de mimétisme, c'est-à-dire genre comme on le disait tout à l'heure, on organise la première idée qui vient à un élu quand on fait de la participation, c'est la réunion publique, et la première idée qui va venir à un élu ou un collectif lorsqu'il veut faire de la participation en ligne, on va faire un forum. Sauf que la mise en place du forum ou la mise en place d'une lettre de diffusion avec possibilité éventuellement d'envoyer un mail ne correspond pas du tout à la façon dont les internautes ou à la façon dont les entre guillemets citoyens potentiellement actifs s'inscrivent dans l'espace public sur Internet. Où ils ont une façon beaucoup plus anarchique, beaucoup moins cadrée, beaucoup plus orientée autour d'un certain nombre d'outils disparates sur le net, et beaucoup moins concentrée. Ils ont une approche beaucoup moins structurée de la participation. Donc on a un problème. On a d'un côté une immense créativité, avec en particulier une créativité de la part des jeunes, avec la mise en place plus loin que des blogs, c'est-à-dire une réappropriation par exemple des images, des musiques, des photos, avec la production de mash-up. Ce sont ces petits films qui sont réinscrits, retravaillés, qui sont ensuite mis en ligne sur un certain nombre de sites de partage de photos, de vidéos, etc. Donc il y a une véritable production. On a du mal à faire le lien entre cette créativité-là qui est foisonnante, qui est existante, et les dispositifs participatifs tels qu'ils peuvent être imaginés par les collectivités locales. Et ça, c'est un véritable problème de public, un problème de concepteur. Le problème qu'il y a entre la conception de la démocratie qui est entre les mains des élus et des collectivités et de la conception de la démocratie qui est vécue par les citoyens. Et ces deux conceptions-là, ce qui est ancré à l'intérieur des outils et ce qui est produit par les citoyens, eh bien, ces deux-là ont beaucoup de mal à s'articuler. Quand elles s'articulent, ça donne des choses absolument formidables. Ça donne par exemple un dispositif comme ce qu'on a vu mettre en place à Rennes, une petite expérience qui s'est appelée Touraine Blog, où on a voulu essayer où la municipalité a voulu organiser une activité de quartier pour essayer de voir la façon dont les gens voudraient voir l'amélioration de leur quartier. Et puis ils ont mis en place des blogs dans lesquels les gens pouvaient prendre des photos, donc la prise de photos sur les petits téléphones, qui est aujourd'hui une pratique qui est très très développée, en particulier chez les jeunes, mais vous le faites peut-être également régulièrement, prendre des photos, vous les envoyez directement sur le blog, et c'est une façon de participer qui ne passe pas forcément par une argumentation structurée, etc., comme on peut faire dans les réunions publiques. Donc qu'est-ce qui est en jeu lorsqu'on organise une consultation en ligne avec une possibilité d'information, d'interaction, etc., entre les internautes, avec les élus, et de façon horizontale et de façon verticale? Aujourd'hui, pratiquement, je peux le dire, au bout de 15 ans, on est totalement revenu de l'idée totalement utopiste de l'organisation, finalement, de la résolution de tous les maux de la démocratie via Internet. Il n'y a plus personne qui défendrait cette idée. On est revenu de la complexité des outils, et on a bien vu qu'il fallait travailler une articulation beaucoup plus forte entre le en ligne et le hors ligne pour pouvoir articuler justement des modes d'expression différents dans des temporalités différentes. Qu'est-ce qui se joue fondamentalement là? C'est la refondation du rapport de médiation. Comment est-ce que je repense la médiation? Et comme le disait donc justement Loïc tout à l'heure, comment est-ce que je pense l'actualisation, la rénovation de la représentation? Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de voir qu'aujourd'hui, en particulier dans une région que je connais un petit peu mieux que les autres, celle du Nord-Pas-de-Calais, dans laquelle il y a une très forte politique régionale de développement de ces pratiques participatives en ligne, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de dire, bon, maintenant, ça fait à peu près 10 ans qu'on met en place ces outils, et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça ne suffit pas de demander à des citoyens de participer à une discussion à un moment donné. Ce qui est important, pourquoi ? Parce que la plupart des infrastructures se mettent en place sur un temps long. Entre le moment où je fais la concertation en amont et le moment où je la construis, il peut se passer 5, 10, 15 ans si c'est un aéroport ou si c'est une usine de traitement des déchets. Ça peut être extrêmement long. Donc ce que nous disent les élus localement, c'est qu'il me faut finalement un outil qui me permette dans la durée de mettre en place une discussion, un suivi entre le moment où je discute en amont et le moment où je suis confronté, moi, élu, une fois qu'on a décidé de mettre en place une infrastructure, où je suis, moi, confronté à toute une série de problèmes, parce qu'une fois qu'on a décidé, eh bien, on a des imprévus, on tombe sur les gens de fouille, on a des retards qui se mettent en place, etc., et les citoyens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que ça prend du temps ? Pourquoi, finalement, ce qu'on avait dit n'est pas tout à fait ce qui va être fait ? Donc, de mettre en place un outil de médiation qui travaille le collectif de façon relativement permanente entre le moment où je décide et le moment où c'est fait. L'intérêt d'Internet, justement, enfin en tout cas des outils numériques, toujours en lien avec les outils hors ligne, j'insiste bien là-dessus, c'est d'organiser la permanence de cette relation dans la mesure où on est dans une relation qui n'est pas évidemment une relation d'instrumentalisation. Je conclurai là-dessus tout à l'heure, je ne l'oublie pas. Alors, je veux préciser un point tout à l'heure, par rapport à la remarque qui était faite dans la salle tout à l'heure, que la conception de la représentation et la démocratie qui est en train de se mettre en place à travers les outils qui se diffusent, c'est tout, sauf de la démocratie directe. C'est bien dans le cadre d'un travail de représentation qui est repensé. Ou, c'est ça toute la difficulté, en particulier pour les élus, de repenser la place de l'élu dans le cadre de cette médiation qui se met en place dans la durée et avec des échanges plus nombreux. Donc, j'ai presque terminé.
T'as 2-3 minutes si on veut vraiment ouvrir la discussion.
Absolument. Voilà. Donc je vais terminer sur deux points qui me paraissent importants. Internet permet, à mon sens, à travers les expériences qu'on a pu observer, deux choses importantes par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui sur les enjeux des pratiques participatives. La première, c'est l'élargissement de la base des citoyens consultés. Les difficultés inhérentes à la mobilisation des populations, même si on fait des efforts, si on essaye d'être innovant, etc., cette difficulté de mobilisation qui pose des problèmes à toutes les personnes qui sont très très sincèrement mobilisées dans le cadre des pratiques participatives peuvent trouver une partie, non pas la totalité, mais une partie des réponses dans la mobilisation de l'outil Internet pour aller décrocher des populations qui sont difficiles à mobiliser par ailleurs. En particulier, on a dit un certain nombre de cadres entre deux âges, hein, je pense qui sont ni très jeunes, ni particulièrement, ni non plus des seniors, mais ces catégories extrêmement occupées, qui n'ont pas des activités par ailleurs sociales, des activités sociales extrêmement fortes qui les amènent à être en lien régulièrement avec les élus. Donc élargir cette base qui échappe, ça c'est le premier point. On peut trouver des exemples qui vont dans ce sens-là, à condition bien évidemment de se donner les moyens pour y arriver. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui me paraît important, la richesse de l'utilisation de ces outils numériques, c'est l'intensification de ces rapports de médiation, intensification et diversification de ces rapports de médiation. En conclusion, je dirais qu'il y a quand même un danger important, c'est pour ça que je disais qu'on était à la croisée des chemins. Le danger, moi, que je vois poindre, il est double. Premièrement, il n'y a pas de suivi des outils, c'est-à-dire qu'entre le concepteur de l'outil et les instances décisionnaires, il y a un gros effort de lien à faire, parce que très souvent les outils peuvent être conçus soit par les directions des services informatiques, etc., qui sont parfois marginalisés dans les collectivités, que ce soit les collectivités de communes, enfin les communautés de communes ou les collectivités locales. Il y a des dissensions en interne qui font que on donne du grain à moudre, hein, ou on donne du grain à moudre aux responsables de la démocratie participative, aux responsables du service informatique, on lui donne une espèce de joujou, et en fait il n'y a aucun lien entre l'artefact technique et le processus décisionnel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un danger qui est extrêmement fort, travailler à cette articulation-là, c'est-à-dire que les élus y croient. Le deuxième danger, c'est celui justement de la méfiance extrêmement forte que je rencontre très très régulièrement de la part des élus vis-à-vis des outils numériques. Il y a un effort de formation extrêmement intense. Je ne vais pas faire le petit topo de l'universitaire contre la tendance à l'élitisme français, qui me semble-t-il, a tout à fait sa place dans une discussion dans notre table ronde aujourd'hui, et qui est tout à fait dans lequel une partie de cette culture politique élitiste française, c'est le mépris de la technologie et le mépris de la technique qui ne facilite pas l'articulation entre les pratiques citoyennes qui, elles, s'ancrent de plus en plus dans la technologie et les processus décisionnels.
Merci Laurence, hein, j'étais un peu bousculé. Donc, bon, je ne ferai pas de reprise, mais il y a vraiment un prolongement de cette discussion de toute façon sur Internet dans une des tables rondes intitulée Internet, nouvel espace démocratique qui aura lieu à 11h30. Et puis, autre publicité tout à fait gratuite, cette table ronde sur les expériences participatives en France peut se prolonger cet après-midi à travers une table ronde sur les expériences à l'étranger. Et pour le coup, même si on fait des choses pas mal, on n'est pas super en avance, hein, dans ce domaine. Et il y a peut-être des choses à aller chercher ailleurs et que l'on pourrait éventuellement réintroduire chez nous. Donc je vous donne tout de suite la parole. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de doigts, je m'en doutais, c'est pour ça que voilà, j'étais un peu pressé. Alors on va donner la parole à monsieur qui est le premier. Voilà.
Si je me mets là comme ça, on ne voit pas que de dos, parce que c'est vrai que quand on est dans la salle... On a tendance à s'adresser à la table.
Voilà.
Et pas.
Mais je vous donne simplement une seule consigne de méthodo. Oui. Soyez le plus court possible, oui, compte tenu des 20 minutes.
Que vous connaissez, non, peut-être.
Non, pas du tout. Non, mais vraiment, c'est un élément important de la discussion. Donc, je serai très directif avec vous si vous débordez.
Oui, voilà. Mais d'accord. Là, on échange. Hein.
Ah, très bien.
Ceci dit, quand à la table, il y a trois personnes plus un animateur qui est un spécialiste, parce que vous êtes un spécialiste, M. Blondiot, il ne reste plus beaucoup de temps pour la salle.
Bon, voilà. Je suis désolé, hein, voilà.
Donc,
mais...
Je vais quand même dire des choses que j'avais envie de dire.
Allez-y.
La deuxième expérience de ce forum profite de la première. On n'a pas eu, au début du forum, le défilé des mondanités pénibles et inefficaces des présidents du Conseil général, du Conseil régional, donc très bien. Mais du coup, ces gens-là, en tant qu'élus politiques, ils ne sont pas. À part les élus de Gaulle, donc, que je vais présenter, qui participent, les élus des pouvoirs politiques locaux sont absolument absents de ces forums. C'est dommage parce qu'à mon avis, il y a des choses qu'ils pourraient entendre et qu'ils pourraient traduire dans leur pratique. Donc moi, j'avais l'intention de faire et un petit témoignage et de faire une proposition pour terminer. Le témoignage, c'est que moi, je suis le président d'un mouvement associatif, d'un mouvement politique local qui s'appelle Grenoble Objectif Citoyenneté, qui s'est constitué en 93 pour faire de la politique autrement. Et faire de la politique autrement, c'est très très difficile. C'est certainement dans le rapport, enfin l'explication elle est dans ce que vous disiez hier, 99,9% de gens qui sont pour la démocratie participative. Et puis dans les faits, on se rend compte que c'est très difficile parce que ni les partenaires politiques, ni les médias, ni éventuellement les citoyens favorisent, et vous avez écrit, M. Blondiot, que la démocratie participative n'est pas payante électoralement parlant. On s'en est rendu compte à Grenoble, surtout quand, quand on a en tête la manière dont la liste municipale majoritaire à Grenoble s'est constituée, c'est assez caricatural. Alors effectivement, après, on peut pondre une belle charte de la démocratie locale. Enfin, vous avez dû la voir, là, ce beau document qui est comme ça. Hein, personne n'y croit. Personne n'y croit parce que c'est pas parce qu'on va faire un beau document qu'effectivement on va favoriser la démocratie locale.
Continuez, monsieur. Continuez, mais ne soyez plus trop long. C'est-à-dire, bon, voilà, alors, je vous demande de continuer, mais ne soyez plus trop long. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais ne soyez plus trop long.
Bon, alors, je vais. Mais il y a aussi des grenouilles.
Allez-y, parce que là, on n'est pas du tout performant collectivement. Allez, monsieur, terminez, s'il vous plaît.
Il veut parler à ma place. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que pour améliorer la démocratie participative, il y a effectivement un certain nombre de mesures. Je ne vais pas les passer, je vous renvoie à notre programme municipal. Mais il y en a une qui me paraît intéressante et dont on pourra peut-être discuter ici. C'est la question de la limitation du cumul des mandats, pour lequel, effectivement, nous avons lancé une pétition que je vous invite à signer, aussi bien dans la salle qu'à la tribune. Et là, je rejoins effectivement ce que disait Mme Monnoyer-Smith, c'est qu'effectivement, l'outil technologique peut arriver à nous rendre un petit peu idiots, puisque nous avons créé cette pétition par le site Internet, alors que si aujourd'hui j'avais effectivement la pétition écrite de la vieille méthode, bon, eh bien, à la sortie de la salle, vous pourriez signer la pétition, alors qu'en fait, je vais vous donner un papier qui va vous permettre de la signer sur le site Internet, mais il y aura une perdition en ligne qui sera énorme.
Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, simplement, un tout petit mot pour qu'il n'y ait pas de... Le monsieur à côté, j'ai bien noté qu'il y avait des prises de parole. On va écluser celle-là et après, il y en aura... Je disais 99,9% des gens pour la démocratie participative, c'est-à-dire des gens qui participaient à l'expérience de Patrick Vivray hier dans le forum. Donc on est quand même un échantillon qui est assez peu représentatif de la population française. Donc voilà. Il y a madame, monsieur qui était avant, monsieur et ici. Voilà. Soyez brève, madame.
Oui, je vais essayer de faire vite. Moi, c'est sur la question notamment des publics défavorisés. Mais je dois quand même dire un petit peu, avant de poser ma question, de quoi il s'agit. J'habite centre Grenoble, désolé, c'est Grenoble, mais c'est une zone justement où il y a rupture, c'est-à-dire une zone limite, bourgeoisie, et la zone des HLM, et avec tout ce qu'il y a autour, je n'entre pas dans les détails. Je fais partie d'une association, et c'est à travers l'expérience de cette association qui travaille sur ce quartier que je voudrais poser une question. Tout d'abord, je voudrais dire que cette rupture est totale. C'est-à-dire que les gens de la rue que j'habite, qui est la rue, on va dire, Bobo, ne passent pas dans la rue où il y a les populations difficiles, avec du deal, etc. Que les jeunes qui se trouvent dans cette rue disent, quand ils vont... la première fois que j'ai entendu « on va en ville », je me suis demandé ce qu'ils voulaient dire, parce que nous sommes en pleine ville. Or, aller en ville, pour eux, c'est aller chez les bourgeois. Donc, il y a vraiment cette rupture dont vous parlez. Dans cette association, on essaie justement de créer du lien, ce qui paraît tout à fait intéressant. Mais déjà, tout d'abord, vous parliez de soupçons tout à l'heure concernant les programmes de démocratie participative. Premièrement, il y a une méconnaissance totale. Par exemple, la charte de démocratie participative de Grenoble n'est absolument pas connue. Deuxièmement, vous parliez de soupçons, mais il y a aussi autre chose dont vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire une méconnaissance des réalités. Je donne un exemple. Quand dans cette association, on obtient 1500 euros pour faire un travail de fond avec ces populations, la présidente ne cesse de dire à quel point elle remercie les élus, l'élu qui a permis tout cela, sans avoir la moindre idée des milliers d'euros qui ont été distribués pour ramener un peu de neige pour les Jeux Olympiques, par exemple. Donc il y a vraiment un monde, cette rupture dont vous parlez, qui est une rupture lieu, est aussi une rupture dans la connaissance des choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre vraiment et qui est fondamental. D'où ma question. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être à réfléchir à une nécessité d'un relais pour arriver à cette démocratie participative, notamment pour ces milieux? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, moi j'ai pensé à cette idée, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, bien entendu, Est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité à avoir une personne payée par la ville qui s'occupe d'un secteur et qui soit véritablement à la disposition de, des habitants ? C'est-à-dire qu'elle soit là pour entendre, pour écouter, mais aussi pour apporter des informations nécessaires. Les élus, premièrement, souvent n'ont pas le temps. Deuxièmement, ils ont un statut tel qu'ils ne peuvent pas être entendus complètement. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose qui est fondamental à réfléchir, qui nous amène aussi à peut-être diminuer, et c'est ce que je dois faire moi en ce moment, nos espoirs, nos illusions peut-être d'une démocratie participative totale, véritable et tellement agréable à vivre.
Merci madame. Je propose qu'on termine sur les réponses éventuelles ou les réactions des gens de la tribune à vos questions et à vos interventions. On prend encore deux, trois monsieur qui avait demandé la parole avec les lunettes là, devant madame. Vous n'avez pas demandé la parole. Je suis myope comme une taupe, donc très mauvais. Je vais mettre mes lunettes quand même, mais même avec mes lunettes. Monsieur qui demande la parole là devant, allez-y.
Pas de Grenoble.
Allez-y. Et monsieur aussi, voilà, je vous avais oublié, c'était vous que j'ai confondu.
Allez-y. Je suis assez d'accord avec les deux derniers intervenants, notamment mon collègue maire, puisque je suis maire moi-même. Le vrai problème, c'est que, je serai très bref, c'est que la démocratie participative n'a pas le même statut en termes de normes que la démocratie représentative. Tant que le pouvoir, comme disait Patrick Biberet hier matin, sera à la fois sûr, la personne ou sur les réflexions, au lieu d'être le pouvoir de canaliser, le pouvoir de catalyseur, nous ne pourrons pas parvenir à une vraie démocratie participative. Je suis plutôt issu de votre monde en termes de réflexion intellectuelle, au sens de je veux que les gens participent. Je suis issu d'une culture plutôt radical socialiste qui est devenu très très bleu, puisque je sentais, je ne viens pas tout à fait de votre région. Je vis sur une problématique environnementale forte où il y a véritablement à la fois de la corruption, la fameuse corruption du Sud, et où les citoyens venus d'ailleurs, puisque nous sommes devenus des cités dortoirs, hein, je suis un maire rural, moi. La vraie problématique, c'est que l'ensemble des citoyens ont envie d'appréhender et de s'accaparer, mais sur des problématiques d'ICPO, notamment d'installation classée pour la protection de l'environnement, en l'occurrence une décharge, 50 droits, 50 procédures excluent le citoyen. Vous avez le préfet, vous avez ici, vous avez l'intercommunalité. Et je crois que si la gauche, de manière générale, ne met pas véritablement et n'institutionnalise pas d'un point de vue constitutionnel, ou en tout cas d'un fort pouvoir légal, la possibilité de saisir le politique ne s'autosaisira pas de problèmes délicats.
Merci, monsieur. Monsieur, et après on change d'aile. Ah oui, monsieur, bon, peut-être, oui, il a effectivement, semble-t-il, demandé la parole depuis longtemps. Et je l'avais raté.
Oui, merci. Bon, moi, je ne ferai pas comme mon collègue. Je ne me lèverai pas. C'est plus commode pour moi de rester assis. Moi, je voudrais témoigner. Parce que réinventer la démocratie, vaste programme. Mais nous avons essayé, nous tentons à Grenoble de faire avancer un peu les choses. Nous avons essayé d'élaborer une charte de la démocratie locale, d'autres l'ont fait. On n'a pas pris modèle, on a travaillé peut-être à tort en solo et on aurait pu s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Nous avons constaté, comme d'autres, et ça a été dit, qu'une des difficultés était de donner la parole aux habitants. Éloignés ou pas, parce que même ceux qui sont proches ne viennent pas forcément donner leur point de vue. Mais ils ne viennent pas pourquoi ? Nous, on pense qu'une des clés du problème, c'est qu'il faut rétablir la confiance. Quelque part, la confiance a été perdue. Parce que tout est bouclé d'avance et on n'y pourra rien. Mais si on met en place des règles, ça peut changer. Et nous y sommes arrivés. Ça ne veut pas dire pour autant que dès l'instant où on aura pris la parole, dans le cadre d'une concertation, aussi bien menée soit-elle, ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit sera pris en compte. Parce qu'il y a les politiques qui ont ils ont pris des engagements. Ils ne vont pas, en fonction d'une position d'un groupe de pression ou d'un groupe d'habitants, revenir sur des positions, parce qu'à ce moment-là, ce ne serait pas cohérent. Et on reperdrait à nouveau la confiance. Pour rétablir cette confiance, il nous a semblé qu'il y avait quelque chose de très important qu'il fallait faire, c'était établir des règles. Si ces règles sont établies, chacun les connaîtra, c'est déjà important, et on pourra savoir ce qui peut être fait, ce qui est négociable, ce qui ne l'est pas. Alors, j'entends qu'effectivement, à Arcueil, il y a des choses tout est négociable, certes, mais tout peut s'expliquer. Voilà. Après, c'est le choix politique qui doit être expliqué, et en fonction de l'orientation politique, des choix politiques qui sont faits, on pourra adhérer ou non. Et si on ne veut pas adhérer à des positions politiques, restera in fine la sanction qui s'exprima lors du vote. Et c'est le meilleur moyen d'avoir une démocratie participative aboutie, c'est ça, c'est la sanction. Donc, de toute façon, ce qu'il faut, c'est, pour rétablir cette confiance, expliquer les choix. Une fois que la démarche de concertation est établie, et mettre en place des procédures d'instruction pour établir le projet, mais ensuite, parce que ce n'est pas venu, enfin, ou c'est venu à peine, mettre en place des comités de suivi pour justement, dans le temps, voir comment vont évoluer les choses, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, informer au fil du temps les habitants sur l'évolution des choses. Et aussi, ça nous a semblé très important, et moi en tout cas, ça me semble très important, c'est un comité d'évaluation. Parce qu'avoir porté une politique, l'avoir portée à bout de bras, pour in fine savoir si elle a réussi ou si elle a échoué, c'est tout aussi important que le projet initial. Bon, voilà, merci. C'est ce que nous avons essayé de faire dans la charte. Maintenant, je suis plus confiant que mon collègue Gilles Escala. Je pense que nous allons réussir tous ensemble.
D'accord. Alors, on va passer là et après on va revenir ici.
Merci. Donc moi, je voudrais verser au débat quelques informations sur comment on a fait, première question, pour l'inclusion des personnes qui habituent ne participent
pas. Est-ce que tu peux dire d'où tu parles ?
Voilà, j'y arrive. dans les démarches qu'on a mises en place sur la démocratie participative en Poitou-Charentes. Donc vraiment deux questions qui, pour nous, ont été centrales. Une qui a été tout à fait abordée là ici aujourd'hui, donc celle de l'inclusion. Une qui n'est apparue qu'en filigrane, et je le regrette un petit peu, sur laquelle je reviendrai un petit peu ensuite, qui est celle du pouvoir. Donc première question, comment inclure les personnes qui d'habitude ne participent pas ? Ben nous, tout simplement, l'idée qu'on a eue, c'est que la meilleure façon d'aller chercher les gens qui ne viennent pas spontanément, ben c'est d'aller les chercher nous-mêmes au travers d'un tirage au sort. C'est comme ça que nous faisons fonctionner en région Poitou-Charentes les jurys citoyens et les ateliers participatifs d'évaluation qui se penchent sur l'évaluation de nos politiques publiques. Deuxième façon que nous avons utilisée pour faire participer ceux qu'on ne touche pas d'habitude, c'est tout simplement au travers de la mise en place de notre budget participatif que nous avons souhaité mettre en place dans les lycées. Les lycées, pourquoi ? Parce que les lycées, ben, ça touche l'ensemble des catégories sociales, que vous soyez dans un lycée général, en lycée technique, en lycée agricole, professionnel, que vous soyez de la ville, que vous soyez de la campagne. Chacun a l'occasion de passer par le lycée. Donc les deux façons que nous avons eues de répondre à cette question de l'inclusion. Deuxième question qu'on n'a pas beaucoup entendue ici aujourd'hui, et bon, ça ne m'étonne qu'à moitié, c'est la question du pouvoir dans ces instances de démocratie participative. Alors donc on parle de participation, mais à la table, j'ai essentiellement entendu parler de consultation, de concertation, etc. Donc je voulais poser un petit peu la question à nos intervenants. Quelle place du pouvoir de décider en France dans les expériences de démocratie participative. Et Loïc, tout à l'heure, disait qu'il y a d'autres expériences peut-être plus abouties à l'étranger. Hein, effectivement, rares en France sont les expériences de budget participatif. Il doit y en avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine. Alors que chez nos voisins, par exemple en Italie, on en compte plus de 200. Donc qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'arrive pas encore à se colter à cette question du pouvoir des citoyens de décider eux-mêmes? Merci.
Merci. Monsieur ensuite, et je propose qu'après, malheureusement, on est oui, très très contraint par les horaires.
Je suis dans la commission participation démocratique de la ville de Visil. Donc la ville de Visil a vu un changement de majorité il y a un an, où il y a une majorité associative qui s'appelle Pour et avec les Visilois et les Verts, qui ont pris la place de la majorité vers PSPC. Bon. Et comme le nom l'indiquait, on a eu comme objectif principal de mettre en œuvre la démocratie participative dans une petite ville de 8000 habitants, avec tout le reste qui nous tombait dessus. Donc vraiment, les élus ont été débordés de travail pendant un an, mais je crois qu'on a quand même réussi à faire quelque chose. Et on a réuni environ, il y a 8000 habitants, on a 7 quartiers, il y a eu donc des réunions dans chaque quartier. Et en gros, on a touché 800 personnes différentes. Alors, ce n'est pas encore assez. Mais si vous voulez regarder ce qui se passait avant, dans les réunions de section du PS, il y avait 30 personnes. Dans celle du PC, à peu près pareil. Et dans celle de notre association, un peu plus, hein, 50. Maintenant, on en touche quand même 800. Et on a obtenu donc une... dans ces réunions, il y a eu 600 propositions qui ont été faites, qui ont été collectionnées. Et là-dessus, la mairie a pu en répondre à 300. Hein. Il y en a 300 auxquels on n'a pas encore pu répondre. Et ça va se traduire par l'inclusion dans le budget. Ça s'est déjà traduit par l'inclusion dans le budget 2009 et dans 2010 d'un certain nombre de ces propositions. Donc ces réunions de quartier ont donné lieu à une réunion générale qu'on appelle des 3C, c'est-à-dire citoyens... consultatif, d'une certaine manière, ça reste consultatif. Et c'est à partir de là qu'on a pu inclure des priorités des gens dans le... Voilà. Donc je voulais en parler. C'est un peu dommage que le maire de Visil soit pas venu.
Non, mais on a déjà des élus, c'est déjà énorme. Hein. Il y en a un, on a invité à la tribune et il y en a dans le public. Écoutez, je suis vraiment, c'est vraiment un crève-cœur, mais il est moins deux. Il y a eu des questions. On est dans des. Je sais que j'aime pas ça. Hein. Il faut du temps pour la délibération, mais on est dans des. Et peut-être qu'on a été trop long à la tribune, mais Monsieur avait demandé la parole juste avant, et puis je crois qu'on va s'arrêter là après, quitte à faire des frustrés. Monsieur, en une minute et après 30 secondes. Pour chacun des intervenants pour réagir à des questions importantes qui ont été soulevées, celle du pouvoir, la possibilité de la médiation, etc.
Oui, une minute seulement. Je suis très très étonné que tous les gens qui sont intervenus, aussi bien à l'estrade que dans la salle, n'aient à aucun moment parlé des conseils de développement. Je suis effaré parce que les conseils de développement, c'est quand même une loi qui a été donc votée par des élus. Elle date d'il y a 10 ans, des élus de gauche en plus, donc on pourrait penser que c'est porteur, et en réalité, personne n'en parle. Et alors, le pouvoir des conseils de développement, pour l'instant, il n'est pas important, mais enfin, c'est institutionnalisé. Comment vous pouvez expliquer que personne n'en ait parlé, et vous non plus?
Oui. Bon, écoutez, on s'arrête là. Je suis désolé, monsieur. Hein. On s'arrête. Réponse sur les conseils de développement, en un mot, là, je prends en charge, c'est qu'effectivement, pour l'instant, mais il y a des travaux qui se font. Et pour l'instant, la recherche, par exemple, ne s'est pas intéressée aux conseils de développement. Ça, je le concède. Il y a des choses qui en sont en train de se faire en région Rhône-Alpes, justement. Mais pour l'instant, le conseil de développement n'est pas l'élément le plus moteur en matière de démocratie participative, à quelques exceptions près en France. Alors... on commence par Daniel, Pierre, Laurence.
Je veux dire un mot sur la question du pouvoir. D'abord, en 15 minutes, c'est long, mais c'est très court par rapport à un sujet comme celui-là. Moi, je l'évoquais à travers les référendums décisionnels, mais la question est là. Qu'est-ce qu'on accepte de décider avec ou quelle décision on accepte de remettre aux citoyens? Donc, bien sûr, les expériences Poitou-Charentes les marquent. On a, nous, des budgets participatifs. Par exemple, dans le budget de ma commune, il y a 300 000 euros qui sont affectés aux assemblées de quartier dans une logique décisionnaire. Je pense que c'est très important parce que ça oblige les citoyens à se confronter aux priorités, à la définition des priorités, etc. Mais c'est aussi ça a aussi des limites. Parce que c'est quand même, moi des fois je dis nos assemblées de quartier, c'est un peu de la démocratie de promiscuité. C'est-à-dire que dans les réunions de quartier, on parle des problèmes tellement proches qu'on oublie des questions très importantes qui préoccupent les gens. Comment on vit ensemble? Quelle est la place de l'immigration dans la cité populaire et du rapport au centre-ville ou à la bourgeoisie qu'une dame évoquait? Moi, c'est une question qui m'obsède. Parce que si nous ne sommes pas capables de vivre autrement que côte à côte, ce sera très difficile dans les années à venir. Et donc, il faut des délibérations, une façon de penser l'avenir, une façon de penser les politiques qui permettent que les jeunes des cités, comme on dit, se confrontent aux gens mieux insérés, mieux installés. Parce que nous produisons, je le dis, globalement des politiques pour les gens bien insérés. Et nous laissons les gens moins bien insérés. Donc, je trouve c'est très important de travailler dans l'éducation. C'est un des endroits où la diversité sociale peut exister dans les lycées, mais c'est vrai aussi dans les écoles. Et la loi qui supprime la sectorisation est une absurdité et une loi coupable de ce point de vue-là. Très important de parler de culture, de vie associative. C'est d'autres endroits où les brassages peuvent exister. Donc oui, la question du pouvoir, elle est importante. Non, à Arcueil, on ne remet pas tout aux gens, d'ailleurs. Moi, j'assume, par exemple, j'ai un débat actuellement dur avec un collectif dans un quartier pavillonnaire où on va construire du logement social. Il y a un affrontement. Je dis, la construction de logement social n'est pas négociable. Ça faisait partie de notre programme électoral. On peut négocier la façon dont le bâti s'insère dans la ville. On peut débattre de la place de l'automobile, des parkings, des stationnements. Mais le programme lui-même, c'est un élément sur lequel nous avons été élus. Donc on ne remet pas tout nécessairement en négociation. Mais je pense que si on ne le remet pas, on doit l'argumenter. Et on doit quand même instruire une délibération qui confronte les points de vue. Ne serait-ce que pour qu'on sache pourquoi les gens ne veulent pas du logement social et peut-être les faire bouger eux aussi dans ces remarques. Donc la question du pouvoir, pour moi, est une question tout à fait essentielle. La deuxième question, c'est celle de la délibération. C'est-à-dire, moi, je me méfie des dispositifs de l'instantané. Il faut construire la réflexion. Donc, par exemple, j'ai parlé du référendum, mais dans un référendum, ce n'est pas le vote qui compte, c'est le débat qui est en amont. Dans quelques semaines, je ne sais pas si vous le savez, nous allons voter pour des élections européennes. Où est le débat? Je ne reproche pas à ceux qui l'animent, ils essaient de l'animer. Où est le débat? Quand on a voté sur le traité constitutionnel, il y a eu un véritable débat sur les enjeux européens. Aujourd'hui, on va élire des députés européens, il n'y a aucun débat, c'est l'électroencéphalogramme plat, malgré le fait que les candidats tentent d'animer ce débat. Pourquoi? Parce qu'il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'enjeu, que les choses sont réglées. Ce n'est pas un député par-ci, un député par-là qui changera, mais parce qu'on ne présente pas non plus les enjeux. Vous parliez de la télévision, formidable outil. C'est aussi un formidable outil de négation du débat public aujourd'hui. Voilà. Donc, pour moi, cette question du pouvoir est une question fondamentale. La deuxième, c'est la question de la façon dont on fait société, donc dont on pense la société dans laquelle on veut vivre. Parler d'un plan de déplacement, c'est pas seulement se demander si on met beaucoup de place ou pas beaucoup de place, c'est se demander comment on vivra ensemble dans les années qui viennent. Et donc, il faut construire ces délibérations.
Bon. Pierre. Un mot. Un mot de conclusion.
Un mot. Moi, je prends la question autour de la rupture dans la ville, vous aurez compris qu'elle m'intéresse passionnément et que peut-être je n'ai pas dit à quel point j'avais peur du retour de la barbarie autour de ça. Hein. C'est-à-dire que de l'autre côté de la rue, on n'y va pas. Ou alors les gens qui habitent de l'autre côté de la rue vont jusqu'à les jeunes filles, quand elles sortent du quartier, elles finissent par se changer dans le bus pour ne pas montrer qu'elles appartiennent à ce quartier. Cette rupture-là, elle ne se gère, si on continue comme ça, qu'avec du barbelé et de la caméra de surveillance. Et ça existe déjà ailleurs, on peut aller vérifier, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on met de la violence sur de la violence pour essayer de faire tout autre chose que faire société. Moi, je me pose la question actuellement sur est-ce qu'on pourrait imaginer que des lieux de médiation, effectivement, qui soient peut-être aidés par l'institution, portés par l'institution et par l'argent public, mais décalés de l'institution dans la société civile et portés avec mission pour la société civile de les faire vivre, est-ce que ces lieux-là ne pourraient pas construire plus rapidement, en tout cas à notre époque, là tout de suite, cet état de bâtir quelque chose face à cet état de méfiance et de séparation des corps sociaux qui m'inquiète fortement. Ce que je vis avec le réseau capacitation, c'est ça. Hein, c'est un peu un espace qui est à côté, qui est porté par les conseils régionaux, par l'Europe, etc., et qui permet justement une petite distance qui fait que là, on est ensemble à faire société. Ça veut dire que, je reviens sur la question de Loïc tout à l'heure, ça veut dire que là, on peut parler de conflit. Hein, c'est-à-dire que les SDF de Charleroi et les élus de Fontaine, quand ils se rencontrent dans ces lieux-là, ils n'ont pas envie de cohabiter, ils n'ont pas envie de faire tribu. Hein, aux SDF de Charleroi, on leur dit « j'ai pas envie d'être comme toi ». Il n'en est pas question. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de naturalité à reformer tribu dans ces endroits-là. Mais par contre, on est différent, on communique beaucoup plus, même si on a beaucoup plus de difficultés, ça prend plus de temps, mais on communique beaucoup plus intensément sur de la construction de société.
Merci, et c'est à Laurence que je reviens de terminer. Et voilà.
Oui, en deux mots. Moi, ce qui ressort de ça et qui m'intéresse le plus quand on vous écoute, c'est la question de la confiance, et évidemment, la question de la captation de la parole. Moi, je suis toujours extrêmement fascinée par la complexité au recueil de la parole et à son transfert, à sa circulation. Quand on parle tout l'intérêt du numérique, hein, ce qui peut ajouter, ça suffit pas, on est d'accord, hein, mais ce que ça peut véritablement ajouter au dispositif qui existe déjà, c'est cette circulation et ce transfert de la parole d'un lieu à un autre. Hein. En particulier, la parole des défavorisés, elle existe en ligne. Il existe une parole des défavorisés, des meurtries, de ceux qui souffrent, hein, les émeutes de 2005, elles ont été retranscrites en ligne par des petits objets qui circulaient, des vidéos, etc., qui avaient été construites par ceux qui sont allés faire les émeutes dans la rue. Cette parole-là, elle a circulé dans le monde entier. Donc, si on sait la trouver, l'accueillir, la faire transiter d'un lieu à un autre, on a là quelque chose de tout à fait important pour les émeutes.
Merci. Bon, on a fait qu'explorer, hein, un certain nombre de questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous renvoie aux autres tables rondes. Merci.